Radio Okapi.
Le journal, présenté par Noël Aluzitu Kabambi.
Le ministre de la Justice refuse que le traitement de son dossier soit fait par le chef du parquet et ses magistrats. Raison avancée par Constant Mutamba dans sa lettre hier au procureur général près la Cour de cassation, partialité et inimitié du chef des parquets à son égard. Cette récusation est une manœuvre dilatoire qui ne va pas empêcher de poursuivre les traitements du dossier, rétorque le parquet. Un tribunal pénal pour la RDC pour juger tous les criminels qui ont versé le sang des Congolais pendant les différentes guerres dans l'est du pays. Recommandation de la population de la province de la Tchopo. Proposition faite à la fin des manifestations commémoratives de la guerre de 6 jours à Kisangani. Docteur Didier Mukendi, coordonnateur provincial de l'ASBL Santé Rurale Sanru Maniema, est l'invité de ce journal. Il va parler de la formation de 110 infirmiers A1 reconvertis en sages-femmes pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile en hausse au Maniema. Bonsoir à tous. Affaire Constant Mutamba. L'accusé récuse l'accusateur. Dans une lettre adressée hier 10 juin au procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, le ministre de la Justice refuse que son dossier soit traité par le chef du parquet et ses magistrats au motif d'une partialité et inimitié à son égard. En revanche, le parquet général qualifie cette récusation de manœuvre dilatoire qui ne va pas l'empêcher de poursuivre le traitement du dossier. Explication Jeff Ngoy.
La récusation est le fait de dire non à un juge lorsqu'il est partial. On peut récuser le ministère public dans la phase juridictionnelle et non préjuridictionnelle. On peut récuser un magistrat du parquet, mais pas tous. En effet, le ministre exprime de vives préoccupations concernant l'impartialité du procureur général et des magistrats associés. Il les accuse de ne pas être justes ni neutres en raison de leurs intérêts personnels. Il soutient qu'il cherche à le nuire politiquement, estimant qu'un traitement équitable n'est pas garanti avec ce groupe. Il réclame qu'un autre groupe de magistrats, jugés indépendants, prenne en charge son dossier. Cependant, il nous revient du parquet général qu'il est le seul organe habilité à poursuivre un ministre. Il n'y en a pas deux au pays. Ce sera donc une récusation rejetée. Le parquet rappelle une jurisprudence en la matière. La récusation de l'entreprise Malta Forest contre tous les magistrats de la Cour suprême de justice déclarée irrécevable et non fondée par un arrêt rendu en 2011. Le ministre est accusé de détournement présumé de 19 millions de dollars. Il devra probablement comparaître jeudi devant le même parquet.
Justice encore, le colonel Daniel Mukalai a purgé sa peine de 15 ans de prison depuis le 4 juin, mais il continue à être détenu car sa date d'arrestation juridique formellement reconnue est celle du 26 juillet, date de l'émission du mandat de son arrestation selon l'auditorat général des FRDC. L'un des condamnés du procès Tchebeya et Bazana, Daniel Mukalai, réclame ainsi sa liberté. Sa détention est devenue arbitraire, d'après son avocat. Il fait savoir que l'auditorat général a écrit au Conseil national de sécurité qui avait détenu son client à partir du 4 juin 2010 en vue de retrouver le soubassement juridique de cette détention et en tirer toutes les conséquences de droit. Stéphane Keza fustige par ailleurs les déclarations de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme qui souhaite voir son client être toujours maintenu en prison malgré la purge de sa peine. Il est au micro de Jeff Ngoy.
À l'occasion de la commémoration des 15 ans depuis l'assassinat de M. Floribert Tchebeya, la Voix des Sans-Voix a exprimé quelques revendications, entre autres le maintien en détention du colonel Daniel Mukalai au motif que ce dernier serait la personne indiquée pour pouvoir montrer à la famille les lieux de l'enterrement de M. Fidel Bazana. Du point de vue de notre droit, aucune raison ne peut justifier le maintien en détention d'une personne qui a exécuté pleinement sa condamnation. Le besoin pour la famille des connaître les lieux de l'enterrement de Fidel Bazana est un besoin légitime. Mais rien en droit ne peut justifier qu'une personne ne soit maintenue en détention parce que on ferait des recherches pour connaître les lieux de l'enterrement. Il y a eu un procès, il y a eu une descente jusqu'au lieu supposé de l'enterrement, mais M. Mukalai n'était même pas associé à cette descente parce que, au vu des éléments du dossier, rien ne l'est lié à cette opération-là. Donc aujourd'hui, dire qu'il doit être maintenu en détention au motif que l'on doit connaître les lieux de cet enterrement, ça nous étonne.
Et puis, la population de la province de la Tchopo réclame l'instauration d'un tribunal pénal pour la RDC pour juger tous les criminels qui ont versé le sang des Congolais pendant les différentes guerres dans l'est du pays. Cette recommandation a été formulée hier à l'occasion de la clôture des manifestations commémoratives de la guerre de 6 jours à Kisangani. Ces manifestations ont été organisées par FIVAO, Fonds de réparation et d'indemnisation des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Le point avec Jacques Mukonkole.
Les différentes guerres vécues dans la ville de Kisangani, à savoir la guerre d'un jour, 3 jours et 6 jours, ne doivent pas s'effacer de la mémoire collective. Celle-ci doit être entretenue, conseille le professeur Jean Malonga de la faculté des sciences politiques, sociales et administratives de l'université de Kisangani.
La mémoire collective doit être entretenue en écrivant des ouvrages, des articles là-dessus, en transmettant à nos enfants l'histoire de Kisangani, de la République démocratique du Congo, de génération en génération.
Beaucoup d'acteurs, aussi bien étrangers que congolais, ont trempé leurs mains dans le sang pendant ces différentes guerres. Des plaidoyers doivent être menés en vue de l'instauration d'un tribunal pénal pour la RDC, estime le secrétaire rapporteur du FIVAO, Clémence Kalibunji.
Mais les plaidoyers doivent être menés dans d'autres instances qui puissent reconnaître si le Rwanda comme responsable des activités des crimes sur le sol ville de Kisangani, afin qu'ils puissent procéder à la réparation des préjudices commis ici à Kisangani.
En attendant l'aboutissement de ce plaidoyer, le FIVAO continue avec les indemnisations aussi bien individuelles que collectives. Sur les 14 818 victimes identifiées, 14 109 ont reçu individuellement leur indemnisation, affirme Clémence Kalibunji. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Ouverture ce mercredi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga de la 20e édition de la DRC Mining Week, un point de rencontre des acteurs du secteur minier en RDC et dans la région du Copper Belt. Des stands sont érigés et l'on y expose divers produits qui émanent des activités minières. Parallèlement, une série de conférences se tiennent sur différents sujets. Le thème central retenu cette année, 20 ans de transformation et d'exploitation minière en RDC, investir dans le développement des infrastructures et la sécurité énergétique, vision 2025-2030. Le point avec Paulin Mounanga.
La 20e édition de la DRC Mining Week est une année marquante pour ce qui est devenu la plateforme minière et industrielle phare de la RDC, d'après les organisateurs. Des ateliers techniques se tiennent pendant 3 jours, notamment au sujet de l'importance des femmes dans le secteur minier et leur contribution dans le développement de la transition énergétique. Il y a aussi la digitalisation dans l'industrie minière. Autre thème à suivre, c'est le plan d'action et solution des Nations Unies pour le secteur minier artisanal en RDC. Intervenant dans la conférence sur l'énergie ce mercredi, les conseillers de la République au sein du Conseil économique et social de la RDC pensent qu'il est temps d'accélérer les projets comme Inga 3 pour assurer le développement énergétique de notre pays. Vika Dipanzu.
Si hier, nous étions exportateurs d'énergie électrique à 5 pays différents, Congo, Angola, Zambie, Zimbabwe et Afrique du Sud, et aujourd'hui, nous sommes importateurs nets, il y a quelque chose qui ne va pas. Inga 3, comme vous le savez, c'est la première phase du grand projet qu'on appelle Grand Inga. Grand Inga va être constitué des phases Inga 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais la première phase, jusqu'à présent, cela fait plus de 30 ans, voire même 40 ans qu'on en parle, et ça n'évolue pas.
Lubumbashi, Paulin Mounanga, Radio Okapi.
À Kinshasa, le projet d'appui à l'adoption de la proposition de la loi foncière en faveur des droits des peuples dépendants des forêts en RDC. Ce projet a été au centre d'un atelier hier à Kinshasa. Donc, c'est pour valider la stratégie commune des organisations de la société civile ainsi que les documents y afférents pour ainsi faire pression afin d'obtenir l'adoption de cette proposition de la loi foncière. Proposition qui se trouve déjà au Parlement et alignée pour la session de mars. Plus de détails avec vous, Bertin Kassiama.
Préserver les droits des communautés locales et peuples autochtones, c'est le principal objectif de cette proposition de loi foncière. La responsable de Congo Watch ASBL, Mathilde Roffet, fait la lecture de la société civile sur ce qui bloque l'adoption de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale.
Au final, nous arriverons à découvrir la vérité et à avancer. Donc on essaie de voir quels sont les blocages. On va aller au niveau du gouvernement, de la primature, des parlementaires et le plus d'informations qu'on peut avoir et recouper, ça nous permettra d'avancer. avancer et de faire avancer les droits de ceux que nous défendons.
Selon Mathilde Roffet, les communautés locales sont défavorisées parce que les systèmes fonciers actuels sont dichotomiques. Elle revient sur l'enjeu de cette proposition de loi vis-à-vis des communautés locales.
Il y a le système écrit, il y a le système coutumier. Dans l'ancienne loi qui est toujours en vigueur, on attendait un texte réglementaire supplémentaire pour clarifier les droits coutumiers des communautés locales qui n'est pas arrivé 50 ans plus tard. C'est pour ça que le projet de loi y faisait la place aux droits des communautés pour que les droits coutumiers de ces communautés soient enfin reconnus au même titre que le droit foncier écrit. L'enjeu de cette proposition de loi, c'est que le coutumier devienne aussi fort que le droit écrit et ce qui protégera les communautés locales parce que la plupart fonctionnent sur du droit coutumier.
Pour rappel, la réforme foncière en RDC a été initiée en 2012.
Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements au sein des FRDC lance une série de rencontres avec différentes couches de la population du Maniema. L'objectif est de recueillir des informations fiables sur les causes et les auteurs de l'insécurité dans cette province. Hier mardi, le lieutenant général Tchali Gonzajac a échangé avec les structures de la société civile, forces vives, les défenseurs des droits de l'homme, les jeunes, les femmes leaders et les députés provinciaux. Les participants en majorité réclament la mise en place d'un bataillon propre pour le Maniema afin de bien mener les opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens. Florence Kizalunga.
Dans cette rencontre, les participants se sont exposés à nu au général pour que le niveau national trouve solution aux problèmes sécuritaires du Maniema. La présence au Maniema de cette deuxième personnalité de l'armée nourrit d'espoir l'Assemblée provinciale. Papi Omeonga, le rapporteur.
À l'arrivée du général, on trouve déjà un débit de réponse par rapport aux demandes que nous on avait. Parce que débit, nous, on se devait le problème de la région militaire. Et notre province est gérée par l'équipe qui se trouve au sud Kiv. Et aujourd'hui, nous avons amener un autre général qui va rester ici à Kindu et qui va diriger les opérations dans la province du Maniema. Pour ça, nous félicitons l'état-major général, mais il y a encore d'autres problèmes.
De leur côté, les structures de défense des droits de l'homme attendent la concrétisation de ces promesses. Crispin Muyololo, coordonnateur national du Bureau des inspecteurs des droits de l'homme.
Nous sommes satisfaits en amont parce que c'est encore une promesse. Ce que nous insistons, c'est prendre les militaires qui se trouvent dans les carrés miniers et les amener à la guerre au lieu de rester en train de creuser de l'or, faire des castérites parce qu'on a besoin des Awalikale, Abunagana, Kedelevar dans des sites miniers.
Signalons que ces séries de rencontres se poursuivent ce mercredi avec d'autres couches de population. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
En Ituri, une délégation de l'armée ougandaise conduite par le général James Birungi, commandant des opérations Shuja, est à Bunia depuis une semaine. C'est pour planifier les opérations militaires contre les groupes armés locaux. À la suite d'une série de rencontres avec le nouveau commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, ils ont résolu notamment de renforcer la présence des forces conjointes FRDC-UPDF dans les entités qui sont sous la menace permanente des miliciens et aussi aux frontières de la RDC, notamment dans les territoires d'Aru et de Mahagi. Isaac Raymond.
Au cours des réunions tenues à Bunia, les deux parties ont passé en revue la situation sécuritaire à Ituri, marquée par les multiples attaques des groupes armés, Zaïre, les mouvements pour la défense populaire, CRP et Codeco. Face à ces menaces, les autorités militaires ont décidé de déployer des forces conjointes, FRDC-UPDF à Tchoumia à la plaine de la Calbert, à 60 km de Bunia. Leur présence a été accueillie avec joie par la population qui vivait dans la psychose. Ces officiers militaires se sont ensuite rendus à Mahagi, où ils séjournent depuis lundi pour s'enquérir de la situation sécuritaire aux frontières. Ils ont décidé d'étendre les opérations notamment vers Mukambu à 80 km de Mahagi. Cela en vue d'écarter la menace de la milice Codeco qui occupait au moins trois groupements dans ce coin de la RDC, précise le porte-parole de l'armée en Ituri. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que d'autres militaires ougandais arrivés récemment en Ituri seront déployés dans d'autres entités où les besoins se font sentir pour sécuriser la population. Pour plus de succès dans la traque des groupes armés, les deux officiers instruisent leurs troupes d'observer la discipline sur le terrain. La prochaine étape de leur mission est le territoire d'Aru qui partage la frontière avec le Soudan du Sud. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, cet accident de circulation qui s'est produit hier mardi dans la soirée au niveau du pont jeté sur la rivière Kiira, dans le territoire de Masisi au nord Kivu. Un véhicule avec à son bord 6 personnes a fait une chute d'une dizaine de mètres avant de plonger dans la rivière. Le bilan provisoire est de 2 passagers décédés et des blessés graves qui ont été transportés à l'hôpital. L'accident est attribuable à une défaillance technique.
Actualité internationale.
Le bilan des inondations causées par des intempéries hivernales en Afrique du Sud s'élève désormais ce mercredi à 49 morts, dont 4 enfants dans un bus scolaire. Le précédent bilan, un peu plus tôt ce mercredi, faisait état de 9 morts et plusieurs enfants disparus. Des fortes chutes de neige, des pluies torrentielles et des vents glaciaux ont touché plusieurs zones de la province du Cap-Oriental dans l'est du pays et l'ensemble du pays subit une météo hivernale extrême depuis la semaine dernière. Les pluies torrentielles des derniers jours qui ont également provoqué des glissements de terrain ont contraint des centaines de familles à quitter leurs maisons et ont causé des dégâts importants sur les infrastructures cruciales.
L'invité.
L'invité de Radio Okapi ce soir, c'est Dr Didier Mukendi, coordonnateur provincial de l'ASBEL Santé Rurale Saint-Rue-Maniema. Il revient sur la formation de 210 infirmiers A1 reconvertis en sage-femme à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kindu. Objectif, réduire des cas de mortalité maternelle et infantile qui est en hausse dans la province. Dr Didier Mukendi répond aux questions de Florence Kizalunga.
Docteur Didier Mukendi, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Saint-Rue-Maniema accompagne l'Institut supérieur de technique médicale à la reconversion des infirmiers A1 en sage-femme. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième cohorte. Qu'est-ce qui vous pousse?
L'objectif est de pouvoir aider la province de Maniema pour avoir un personnel de santé qualifié dans les accouchements. L'objectif principal étant d'avoir le personnel qui peut contribuer sensiblement à la réduction de la mortalité maternelle dans notre province et puis dans notre pays. De façon général.
Quel constat avez-vous fait pour arriver à décider d'accompagner la province du Maniema en ce sens?
Lorsque vous regardez les données statistiques de notre pays, nous sommes à 547 femmes qui meurent sur 100 000 naissances vivantes. Et l'objectif pour ODD, d'ici 2030, c'est atteindre moins de 70 femmes qui meurent pour 100 000 naissances. Et pour y arriver, le constat a été fait que lorsqu'il y a un personnel de qualité qui dirige les services des accouchements, on peut arriver sensiblement à la réduction de la mortalité liée à l'accouchement chez les mères. C'est ce qui a poussé Saint-Rue à mobiliser le financement avec l'agence suédoise de coopération internationale, développement international, pour pouvoir élaborer un projet qui va contribuer à cette réduction pour aller quand même vers cet objectif, cette cible qui est d'avoir moins de 70 femmes qui meurent sur 100 000 naissances vivantes.
Les taux étaient élevés avant votre opération. Maintenant que aujourd'hui vous êtes à la troisième cohorte, comment est la situation sur terrain?
Bon, bien qu'on n'a pas encore organisé les enquêtes depuis que nous avons commencé notre projet, mais déjà lorsqu'on regarde quand même le résultat de 2024 au niveau de la province de Maniema, nous sommes déjà à 133 décès pour 100 000 naissances vivantes, même si on n'a pas encore atteint les 70, le deux chiffres pour 100 000 naissances vivantes, mais nous sommes quand même sur la bonne voie dans la province de Maniema avec le projet Bomoï.
Dans ce projet Bomoï, Sanri se fixe l'objectif d'atteindre combien de sages-femmes formées?
Donc, il était prévu depuis le début du projet de pouvoir former 210. Donc, avec cette troisième cohorte, nous avons atteint notre cible qui était des 210 sages-femmes formées au niveau des l'ISTEM Kindu.
C'est-à-dire le projet s'arrête là? Saint-Rue est satisfait d'avoir atteint son objectif de former 110 sages-femmes?
Dis-moi, pour la formation, avec les financements que nous avons reçus des Suédois, le projet s'est arrêté donc à la fin du mois de mai 2025, mais nous allons continuer avec le projet durant le reste du mois de 2025 plus 2026 pour pouvoir accompagner les gens que nous avons formés au niveau des terrains. Mais dans l'entretemps, notre direction est à la recherche d'un autre bailleur qui peut nous donner des moyens pour pouvoir continuer avec cette formation au niveau des listes Maniema.
Saint-Rive lutte pour la mortalité maternelle et périnatale. Maintenant, avec 210 sages-femmes formées et la démographie de la province du Maniema, pensez-vous que ça va répondre vraiment à ses besoins?
La province de Maniema a 18 zones de santé, avec 284 aires de santé ou maternité. Et nous pensons déjà, avec 80% de ces sages-femmes qui sont formées, nous pensons quand même si chacune des sages-femmes peut être dans une aire de santé en train de faire convenablement son travail, on peut atteindre de bons résultats. Mais nous sommes en train de faire un effort. Si on a un un autre bailleur, pourquoi ne pas former deux accoucheuses sages-femmes au niveau de chaque aire de santé pour atteindre même 500 apprenants qui sont formés comme sages-femmes. Comme ça, on a une moyenne de 2 personnes formées par aire de santé. Mais pour le moment, déjà les 210 que nous venons de former sur 284 aires de santé, donc nous sommes déjà autour de 80% des aires de santé qui sont couvertes par les apprenants sages-femmes.
Mais le problème de mortalité maternelle et périnatale n'est pas seulement lié au personnel, mais aussi à l'équipement et aux infrastructures. Que pense Sanri en ce sujet?
Oui, ça c'est un des éléments. Dans notre projet, pendant la première et deuxième cohorte, nous avons eu à réhabiliter 60 maternités dans lesquelles nous avons intégré le projet. Nous avons équipé ces maternités et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à pouvoir approvisionner ces centres de santé en médicaments essentiels liés à la santé de la reproduction. Et nous accompagnons également la DEPES dans la supervision des activités au niveau de ces centres de santé à travers la coordination provinciale santé de la reproduction.
Docteur Didier Mukendi, je vous remercie.
Merci madame.
Nous vous remercions aussi, vous qui avez bien voulu suivre ce journal qui arrive à sa fin, un journal mis en onde par Alain Goy, présenté par Noéla Luzitu Kabambi sous la coordination de Jude Mystère Bilanda.